Bonjour à tous, donc je vais vous parler maintenant plus des instruments. Alors ce qu'a dit Françoise a introduit pas mal certaines choses dont je vais parler, hein, les multiples récepteurs, le phasage numérique, etc. Et donc je vais vous retracer un petit peu ce chemin vers les nouveaux radiotélescopes qui ont explosé au XXIe siècle et qui offrent des perspectives très très riches et très intéressantes. Alors, d'abord, juste pour commencer, je vous rappelle, mais bon, j'enfonce des portes ouvertes, parce que vous suivez ces séminaires depuis longtemps, je vous rappelle que la radioastronomie est définie par deux choses. D'une part, la transparence de l'atmosphère terrestre. Ici, vous avez... Je vous rappelle que la radioastronomie est définie par deux choses. D'une part, la transparence de l'atmosphère terrestre. Ici, vous avez une courbe qui montre l'opacité de l'atmosphère. Donc, quand ça tombe vers zéro, c'est transparent. Et vous voyez qu'il y a une fenêtre de transparence dans l'optique et l'infrarouge, et il y a une très grande fenêtre de transparence dans ce qu'on appelle les ondes radio, qui sont bordées d'un côté par l'absorption atmosphérique, par l'oxygène et la vapeur d'eau, et de l'autre côté par la réflexion des ondes par la partie ionisée en fait, de l'atmosphère qu'on appelle l'ionosphère. Et entre les deux, on a quatre ordres de grandeur en longueur d'onde ou en fréquence, où on peut détecter des ondes radio à partir du sol et on fait de la radioastronomie. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième élément qui fonde en fait, la technique de la radioastronomie, c'est le fait que, contrairement à l'optique, où on détecte simplement l'intensité du signal reçu, en radio, on a des détecteurs suffisamment rapides qui permettent de détecter l'amplitude et la phase des signaux qu'on reçoit. Et ça, vous allez voir que c'est très important pour s'en servir après. Alors, un radiotélescope, on peut le caractériser, disons, très schématiquement par deux de ses propriétés principales. La première propriété, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, c'est très facile de comprendre que c'est proportionnel à la surface collectrice. Un télescope n'est rien d'autre qu'un panier à recevoir des photons. Plus le panier est grand, et plus on va recevoir des photons. Donc ça, c'est facile. Alors, en revanche, la résolution, c'est un tout petit peu plus délicat. La résolution, c'est la capacité à distinguer des détails fins, à résoudre les détails. Et cette résolution, quand on a un instrument d'optique quelconque, alors c'est vrai pour un télescope optique, un télescope de diamètre D, il va avoir en fait la taille d'un pixel, du plus petit pixel qu'on peut voir avec ce télescope, eh bien c'est une petite tache qui a comme diamètre la longueur d'onde divisée par le diamètre du télescope. Donc vous voyez que plus la longueur d'onde est petite, plus cette tache est petite, plus le diamètre du télescope est grand, plus cette tache est petite. Et vous voyez que, par exemple, la résolution, on peut la comprendre comme ça, c'est ce qui permet de résoudre en fait, deux points d'une image qui vont être distants d'au moins cette dimension lambda sur d, donc qui a une grandeur en radian. Alors, pour un radiotélescope, les radiotélescopes fonctionnent, vous l'avez vu dans la diapositive précédente, à des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus grandes que la lumière optique. En optique, on est à un demi-micron de longueur d'onde, en infrarouge à quelques microns. En radio, on peut être à des dizaines de centimètres, voire des dizaines de mètres. Et donc, évidemment, c'est très très défavorable, puisque lambda étant très grand, cette tâche va être énorme, on va avoir une très mauvaise résolution, on ne va pas pouvoir voir des détails fins. Et donc, pour contrebalancer ça, on est obligé de construire des instruments qui ont de très grandes dimensions linéaires, de très grands diamètres. Donc ça, c'est Parkes, que vous a montré Françoise, qui fait 64 mètres de diamètre, Nancy, 200 mètres, et puis voilà, Arecibo qui s'est écroulé, 300 mètres, Fast, 500, etc. Et alors voilà un exemple, quand on a une résolution très modérée, donc là on a une galaxie, une résolution très modérée, 10 minutes d'arc, vous voyez qu'on voit une tache floue, et puis on passe à une minute d'arc, on commence à voir des petits détails, et puis à 10 secondes d'arc, on commence à voir des petits points ici, et puis à une seconde d'arc, on commence à voir des étoiles, et donc les détails s'affinent. Et donc c'est ça la résolution. Plus cet angle est petit, plus on voit fin. Alors, la deuxième moitié du XXe siècle, qui a été en fait la première période de la radioastronomie, a été vraiment l'âge d'or des grandes paraboles, qui observaient, en gros, plutôt dans la partie gauche de ce trou ici. Pourquoi ? Parce qu'à basse fréquence, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, donc là, ici, on est à grande longueur d'onde, c'est-à-dire à basse fréquence, ici, on est à plus courte longueur d'onde, donc à plus haute fréquence. À grande longueur d'onde, à basse fréquence, vous allez voir qu'on a de nombreux problèmes qui sont posés par la nature et l'environnement, en fait, et qui rendent difficile l'observation. Donc, même si la radioastronomie est née à basse fréquence, très rapidement, on est monté vers le gigahertz et au-delà, parce que c'est là où on pouvait avoir la meilleure résolution, la meilleure sensibilité, et faire la science la plus intéressante au départ. Et donc, on a construit des grandes paraboles qui permettaient de collecter beaucoup de photons, et ces grandes paraboles, donc, qui fonctionnaient au-delà du gigahertz, avaient une aire effective, François vous a donné les chiffres tout à l'heure, typiquement de l'ordre de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de mètres carrés. Et puis, ils offrent une résolution angulaire typiquement de l'ordre de la minute d'arc. Alors vous voyez, on a des paraboles de 100 mètres de diamètre, mais malgré tout, la résolution angulaire qu'elles fournissent, c'est celle que a l'œil nu, en fait, en visible. Hein, la résolution de l'œil, c'est environ la minute d'arc aussi. Donc, ce n'est pas énorme. Ça ne permet pas de faire des images extrêmement fines. Alors, néanmoins, on peut faire de la science très intéressante. Hein. En particulier, voilà par exemple, alors quelques exemples, hein, pas du tout exhaustifs. Donc, ce qu'on appelle du single dish, c'est-à-dire on utilise un seul radiotélescope, une seule parabole, pour faire des images. Voilà, vous avez ici Jupiter tel qu'il est vu. Alors, en optique, on reconnaît ses bandes. En ultraviolet, on voit ses aurores ici. Et puis, en radio, à une longueur d'onde de 10 cm. Alors, vous voyez que l'image est beaucoup plus floue. On n'a pas une très bonne résolution, mais en revanche, on voit apparaître de nouveaux phénomènes, on voit apparaître des oreilles autour de Jupiter, qui sont en fait ces ceintures de radiation. C'est le champ magnétique qui va piéger des électrons de très haute énergie qui vont produire du rayonnement radio par effet synchrotron. Donc on voit des nouveaux phénomènes très intéressants. Alors vous avez évidemment les pulsars, hein, Françoise en a parlé au début de son exposé, donc des étoiles mortes en rotation rapide qui produisent des impulsions. Ces impulsions sont dispersées par leur trajet dans le milieu interstellaire, et on peut les dédisperser, les sommer, et donc avoir des pics comme ça, et puis on peut regarder chaque pic, quelle est la forme exacte du pulse, et faire plein de physiques très intéressantes. Et ça, bien sûr, ça peut se faire avec du single dish, parce qu'on ne va pas faire des images de l'objet, c'est un objet ponctuel, on va regarder en temps et en fréquence comment varie son signal. Et puis évidemment, vous avez les fast radio bursts, et je ne vais pas vous en parler, puisque Françoise vient de vous en parler de manière détaillée. Alors, en single dish, on a plusieurs limitations. Je vous ai dit qu'on avait la limitation de la résolution angulaire, mais ce n'est pas la seule. La résolution angulaire va causer une autre limitation en sensibilité. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, quand vous étudiez le ciel avec suffisamment de résolution, vous apercevez qu'en radio, le ciel est couvert de petites sources, quasiment isotropes, de sources très faibles, qui sont essentiellement des sources extragalactiques. Donc vous en avez plein. Voilà comment varie le nombre de ces sources en fonction de leur intensité. Donc, plus l'intensité est faible et plus il y a de sources. Et donc, le problème, c'est que le ciel, c'est comme si le ciel, en fait, était une tôle ondulée avec plein de sources partout qui ont des contributions variées. Alors, quand vous observez avec un télescope qui a un faisceau, donc une taille de pixel qui est assez large, cette taille de pixel va englober un grand nombre de pics. Et quand on va déplacer ce faisceau sur le ciel, eh bien on va avoir des fluctuations parce que ce n'est pas le même fond qu'on va échantillonner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la confusion. Et la confusion introduit une limite à la sensibilité qui est liée au carré de la résolution angulaire du télescope. Donc, quand on est limité par la résolution, on est aussi limité en sensibilité par la confusion en imagerie. Alors, un autre problème aussi, c'est que bon, quand on est en optique, on a un télescope optique et on sait mettre au foyer de ce télescope un capteur qui a des milliers ou des millions de pixels. Typiquement, par exemple, une caméra CCD, voilà, qui va permettre de faire des images directement. En radio, avec un single dish, c'est beaucoup plus difficile, puisque en fait, soit on a un seul pixel au foyer, soit éventuellement on a des matrices de quelques pixels à quelques dizaines de pixels. Et donc on arrive à faire des images très limitées et il faut balayer le ciel ensuite pour arriver à former des images avec plus de pixels. Donc c'est long et c'est compliqué pour regarder des phénomènes transitoires. C'est pour ça que depuis déjà les années 60, on est passé à ce qu'on appelle l'interférométrie. L'interférométrie, c'est une technique qui va tirer parti du fait qu'on peut mesurer l'amplitude et surtout la phase des ondes radio mesurées par chaque télescope. On va prendre ces signaux, donc on a des signaux qui sont variables au cours du temps, des oscillations. On va prendre ces signaux et on va les combiner entre un certain nombre de télescopes. Et puis en les combinant, et je vais vous montrer comment juste après, eh bien on va pouvoir en fait prendre la combinaison de ces signaux et former avec des images directement. Et ces images vont avoir une résolution toujours lambda sur D, mais cette fois-ci, D, ce n'est plus le diamètre d'un télescope, d'un radiotélescope, mais c'est le diamètre de l'ensemble de l'instrument. Donc si on place les radiotélescopes à des dizaines de kilomètres ou plus les uns des autres, on va avoir l'équivalent d'un instrument d'optique qui va avoir un diamètre de plusieurs dizaines de kilomètres ou centaines ou milliers. Et donc on va avoir accès à une résolution qui va être très améliorée, donc à une confusion plus faible et donc à une meilleure sensibilité et une capacité de faire des images directement. Alors en une heure, je n'ai pas le temps de faire un cours d'interférométrie, hein, ce n'est pas possible, mais pour vous donner un petit peu le sentiment de ce que c'est, Quand vous avez deux télescopes, deux radiotélescopes qui regardent dans une direction donnée, hein, qui a un angle θ ici par rapport à la ligne qui joint les deux télescopes, et vous avez donc des ondes qui vous arrivent d'une source. Alors comme la source est à l'infini, les ondes vous arrivent parallèlement sur les deux télescopes, donc ce sont les ondulations rouges que j'ai mises ici. Vous voyez que vous allez avoir un retard entre le moment où l'onde touche le télescope numéro 2 ici ou celui qui touche le télescope numéro 1. Et ce retard va donner une information sur ce qui se passe dans la direction θ ici. Quand on est au zénith, le retard est nul. Quand on est dans une autre direction, le retard va être cette fois-ci sur le télescope numéro 2. Et ce que va mesurer un interféromètre, ça va être ce qu'on appelle la corrélation, c'est-à-dire le produit des signaux mesurés par les deux télescopes. On fait un produit et puis on moyenne ce produit sur un certain temps. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ce produit, en fonction de l'angle θ, de la direction de visée, eh bien, il va avoir comme ça un comportement comme un interféromètre, c'est-à-dire en fait comme des fentes d'Young, des trous d'Young, on va avoir des franges d'interférence sur le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, un ensemble de deux télescopes va former en fait un système de franges de réception sur le ciel avec des maxima et des minima. Et cette paire de télescopes, c'est ce qu'on appelle une ligne de base. Une ligne de base, ce sont deux radiotélescopes. Alors en fait, pour faire de l'imagerie en radio, le principe, c'est qu'on va avoir bien sûr plus que deux radiotélescopes. On en va avoir 3, 5, 10. Par exemple, l'IRAM, c'était 6. Maintenant, Noema, c'est 12. Le VLA, c'est 27, etc. Et puis, ça peut aller à des centaines. Donc, quand vous avez un certain nombre de radiotélescopes, vous allez avoir beaucoup de lignes de base. Si vous avez n radiotélescopes, vous avez n fois n moins 1 divisé par 2 lignes de base. Donc, vous pouvez avoir des milliers de lignes de base. Chaque ligne de base qui se place dans un plan, en fait, on appelle ce plan UV, en fait, c'est la direction et la longueur et l'orientation de cette ligne de base, correspond à un réseau de franges dans le ciel. Plus la ligne de base est grande, plus le réseau est serré, plus elle est étroite, plus le réseau est large, et l'orientation va dépendre de l'orientation de la ligne de base. On va combiner, en fait, les signaux de toutes ces lignes de base, et on va faire une opération mathématique dessus, et cette opération mathématique va directement nous donner une image du ciel. Donc c'est très différent de ce qu'on fait avec un seul radiotélescope. Là, on prend la corrélation des signaux de toutes les paires de radiotélescopes, on n'a plus qu'une une opération mathématique dessus, et on obtient une image du ciel. Alors voilà, en fait, on peut démontrer que les signaux qu'on mesure, donc toutes ces corrélations qu'on mesure en chaque point du plan UV, le plan où il y a les lignes de base dedans, eh bien en fait, c'est une opération mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier, dont Françoise vous a parlé, du ciel, multipliée par une fonction qui dépend de la géométrie du radiotélescope, et qu'on appelle sa fonction de transfert. Et puis si on fait une transformée de Fourier inverse, on prend les données qu'on a, on applique une opération mathématique qui est la transformée de Fourier inverse, et on obtient directement la carte du ciel. Et cette carte du ciel est simplement convoluée avec la point spread function, c'est-à-dire la réponse du télescope, comme en optique, où vous avez une image qui va être multipliée par la figure de diffraction du télescope. Donc c'est exactement la même chose. Et donc en fait, cette petite équation traduit le fait que la transformée de Fourier de l'image du ciel est dans le plan des antennes, là où on a placé les antennes. C'est ce qu'on appelle le théorème de Zernike-Van Sittert qui nous dit ça. Alors, comme je vous disais, quand on a n antennes, on a n, n-1 sur 2 lignes de base, et donc ce n'est pas forcément suffisant, le nombre de points qu'on a ici, pour avoir une très bonne image. Et donc on va se servir à la fois du fait d'observer à plusieurs fréquences et du fait d'observer pendant longtemps, les lignes de base vont tourner avec la rotation de la Terre, pour mieux couvrir en fait notre pupille, qui est l'ensemble des radiotélescopes, et avoir une meilleure image. Alors ici, vous avez un petit exemple. Je vais prendre d'abord une seconde pour vous faire une toute petite démonstration avec un logiciel absolument merveilleux qui s'appelle le simulateur de synthèse d'ouverture. Alors, vous avez ici un tableau de commandes, mais je ne rentre pas dans les détails. Vous avez ici deux radiotélescopes qui sont là, et ces deux radiotélescopes forment une ligne de base, et voilà la position de cette ligne de base dans le plan UV dont je vous parlais. Et bien sûr, il y a son symétrique, mais on ne s'en occupe pas. Et bien, quand on a une base horizontale ici, on fait sur le ciel un système de franges qui va être perpendiculaire à la ligne de base. Alors, moi, ce que je veux, c'est faire une image de ça. Ça, c'est la nébuleuse du crabe. Bon. Ici, j'ai la réponse de mon télescope, je le multiplie par mon image et j'obtiens le résultat. Bon, ici, on a la nébuleuse du crabe, mais simplement vue par deux télescopes. Ce n'est pas terrible, hein, on ne voit pas très bien. Alors, vous voyez que si j'écarte mes deux radiotélescopes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant, je vais écarter mes antennes. Quand j'écarte mes antennes, vous voyez que les franges se resserrent. Quand je rapproche mes antennes, les franges formées sur le ciel deviennent de plus en plus larges. C'est le lambda sur d que je vous parlais, on fait varier d ici. Si je change la position de mes antennes, vous voyez que les antennes, les franges vont être orientées d'une manière différente sur le ciel. Donc chaque paire d'antennes orientation-longueur me donne une information différente. Évidemment, avec deux antennes, ce n'est pas suffisant. Donc je vais remettre mon antenne à cette place-là, et puis je vais rajouter une antenne de plus. Vous voyez ? Je rajoute une troisième antenne, et puis je l'écarte un petit peu ici. Voilà, je la mets là. Alors vous voyez que ça complique la réponse de mon télescope, mais ce n'est toujours pas terrible l'image que j'ai ici. Mais ça, c'est une image instantanée du ciel. Donc je vais me servir de la rotation terrestre et augmenter le temps de pose. Alors quand j'augmente le temps de pose, vous voyez que mes points ici dans le plan UV se transforment en des cercles avec la rotation. Et je commence à avoir une réponse de télescope qui devient beaucoup plus proche d'un point ici et une image qui va ressembler de plus en plus, maintenant cette fois-ci, à l'image que je cherche de la source qui m'intéresse. Alors si je rajoute d'autres antennes, eh bien plus je vais rajouter des antennes et plus l'image va se mettre à ressembler à ce que je veux. Et alors pour terminer, je vais par exemple charger un réseau qui est le Very Large Array au Nouveau-Mexique dans sa configuration B. Et vous voyez qu'avec le Very Large Array, déjà de manière instantanée, ce n'est pas terrible du tout ce que j'obtiens comme image. En revanche, dès que je me mets à poser sur quelques heures, eh bien, vous voyez que j'obtiens une image qui est extrêmement fidèle par rapport à ce que je cherche. Et c'est ça la magie de l'interférométrie. On prend des antennes, on fait des corrélations des signaux, on prend toutes ces corrélations, on applique une opération mathématique et on obtient une image du ciel. Et donc, tout va être ensuite, dans les maths, détaillé qu'on peut faire avec ça. Voilà. Donc, j'en reviens où j'en étais ici. Alors voilà, c'était un exemple. Ça, c'est avec une image instantanée, donc quelques antennes qui ont donc cette couverture du plan UV et qui me donne donc une image instantanée qui n'est pas très fidèle à l'original. Mais quand j'utilise la rotation de la Terre, la couverture de mon plan va donner ça, et donc une image de plus en plus proche de l'original. Alors la démo vient de finir. Alors voilà quelques exemples d'interféromètres classiques, c'est-à-dire formés de plusieurs paraboles, aux Pays-Bas, le VLA au Nouveau-Mexique, le GMRT en Inde, le plateau de Bure, donc l'IRAM et maintenant Noema en France, ALMA au Chili. Et donc tout ça, avec leurs différentes caractéristiques que vous pouvez retrouver dans le PDF plus tard, vous donne ça. Alors avec ça, on peut faire des images très intéressantes. Par exemple, voilà des galaxies vues en optique et voilà leur contrepartie à la même échelle en radio. Alors c'est très intéressant, vous voyez qu'on voit l'hydrogène neutre ici, l'arrêt H1, et vous voyez que la distribution hydrogène neutre est beaucoup plus étendue que ce qu'on voit en optique. Donc là encore, la radio nous révèle une réalité différente et complémentaire de ce qu'on voit en optique. Vous avez ici Cygnus A, une source, une galaxie lointaine, et en fait en radio, on voit des jets énormes de matière qui sont émis. On a l'impression qu'on a une souris qui éjecte deux éléphants ici. Hein, et on a vraiment des jets énormes qui sont de la matière très ténue, mais qui interagit avec le milieu intergalactique et qui va créer ces phénomènes qui sont très intéressants à étudier. Donc là, ici, on est vers le gigahertz. Et puis, à plus haute fréquence, à plus petite longueur d'onde dans le millimétrique, ça, c'est, je trouve, une des images les plus merveilleuses qu'on a obtenues avec ALMA, qui est en fait un disque protoplanétaire en formation. On a une étoile et puis de la matière et des sillons qui sont creusés par des planètes en train de se former. Et les simulations numériques qui ont été faites donnent quasiment la même image. Donc c'est fantastique. Et puis ça, c'est tout un tas de vents stellaires qui sont vus par ALMA, donc dans le millimétrique et submillimétrique. On peut utiliser aussi la polarisation des ondes. Alors la polarisation, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une onde, c'est un champ électrique qui oscille, mais il y a aussi la direction dans laquelle ce champ électrique oscille par rapport à l'observateur, linéaire ou qui tourne, etc. Donc polarisation linéaire ou circulaire. Et la polarisation linéaire contient ce qu'on appelle l'effet Faraday, dont Françoise vous a parlé tout à l'heure, qui correspond à une rotation du plan de polarisation linéaire avec la propagation. Et on peut remonter, grâce à ça, aux champs magnétiques, qui sont tous les petits traits jaunes ici, dans la source étudiée et dans le milieu entre la source et nous. Et donc ça permet d'étudier à distance les champs magnétiques, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, l'interférométrie n'a pas de limite. Plus on éloigne les antennes les unes des autres, et plus on a des bases longues et donc des résolutions angulaires très petites. Et la résolution ultime a été obtenue donc, il y a deux ans, ou trois ans maintenant, pour obtenir avec un réseau de télescopes millimétriques, submillimétriques qui couvre toute la Terre, une image avec une résolution de 10 micro-arcs-secondes, en fait, du trou noir qui est au centre de la galaxie M87. Et c'est l'image de l'Event Horizon Telescope dont vous avez tous entendu parler. Alors ça, c'est très très bien, l'interférométrie avec ce télescope, ça permet d'avoir une très haute résolution, mais les champs qu'on va regarder sont très petits. D'abord, ils sont limités par chaque parabole, et donc ça veut dire un petit champ d'une fraction de degré carré en général, voire moins. Et puis en plus, l'interférométrie qu'on va faire dedans, on va aller regarder le centre du champ en faisant des images. Alors, aux basses fréquences, les paraboles ne sont pas efficaces du tout. Elles ne sont pas efficaces parce que, d'abord, une parabole, pour être un instrument collecteur de photons efficace, il faut que la taille de la parabole soit beaucoup plus grande que la longueur d'onde. Sinon, ce n'est pas un instrument d'optique, c'est presque un plan réflecteur. Et donc, quand vous avez une longueur d'onde qui va être de 1 mètre ou de 10 mètres, eh ben, même une parabole de 100 mètres ne fait que 10 fois à 100 fois la taille de la longueur d'onde. Donc ça, ce n'est pas terrible, ce n'est pas très efficace. Et puis, donc, c'est limité par les câbles. Il faut des instruments gigantesques, limités mécaniquement, et même avec ça, on a des résolutions qui ne sont pas terribles. Donc, en fait, en basse fréquence, on s'est tourné depuis déjà longtemps, aussi les années 1960-70, vers ce qu'on appelle des réseaux d'antennes, des réseaux phasés. Alors, vous en avez en Ukraine, à Nancy, en Sologne, aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Donc, ce sont diverses antennes dont on va combiner, là encore, les signaux. Mais pas de la même manière que pour un interféromètre. En effet, avec ces antennes, on ne va pas faire des images, on va synthétiser un seul télescope, donc qui va faire un faisceau, qui va avoir un faisceau récepteur dans le ciel. Alors, pour vous donner un exemple, ici, vous avez le télescope de Parkes, et quand on a un pointage mécanique, ben, il faut déplacer des dizaines de tonnes mécaniquement pour pointer dans une direction donnée. Donc, ce n'est pas pratique, ça prend du temps. Là, évidemment, c'est accéléré dans le temps, ça prend plus longtemps que ça de bouger le télescope. Voyez. Quand vous avez un réseau d'antennes, alors vous avez en fait un cercle. Alors là, je vous représente les choses à une dimension, mais vous pouvez vous imaginer exactement la même chose à deux dimensions sur le sol. Vous avez un certain nombre d'antennes ici, et puis si vous allez sommer cette fois-ci, et non pas faire le produit, mais la somme des signaux qui viennent de toutes les antennes. Alors j'ai représenté les câbles qui viennent de deux antennes simplement pour ne pas charger mon diagramme, mais en fait vous pouvez imaginer que vous avez les mêmes câbles qui viennent de partout. Si vous sommez les signaux avec des câbles de même longueur partout, donc vous sommez les signaux en phase, eh bien, vous allez avoir un maximum de sensibilité exactement à la bisectrice, au zénith, perpendiculaire à votre série d'antennes. Si vous voulez observer, non pas au zénith, mais dans une direction qui est inclinée, eh bien, vous voyez que pour chaque antenne va être affecté, le signal arrivant qui va être affecté d'un délai qui va être de plus en plus grand quand je vais de la droite vers la gauche ici, puisque c'est dû à la direction θ. Eh bien, si vous compensez ce délai sur chaque antenne par un circuit électronique qui va retarder le signal de chaque antenne, donc un grand delta T ici, et puis un petit peu moins là, un petit peu moins là, etc., eh bien, vous allez avoir une réponse de votre série d'antennes qui va être maximum, cette fois-ci non pas au zénith, mais dans cette direction-là. Si vous mettez les délais de l'autre côté, vous allez être sensible dans une autre direction. Donc, en fait, simplement en commutant des circuits électroniques, avant de faire la somme des signaux de vos antennes, vous allez pouvoir orienter le faisceau de votre télescope dans le ciel, et c'est exactement ce qu'on fait avec un réseau phasé. Ce qu'on fait ici, ce délai, c'est le phasage, en fait, c'est l'introduction de temps de retard, c'est-à-dire de déphasage sur chaque antenne, qui va vous permettre de pointer le réseau. Alors, avec les réseaux phasés, on ne fait pas forcément de l'imagerie, parce que ce sont des réseaux phasés qui vont être, là aussi, de l'ordre de la centaine de mètres ou quelques centaines de mètres, mais qui travaillent à tellement basse fréquence que, là encore, lambda sur D, la résolution est très mauvaise. Donc, on va simplement, par exemple, faire des études du plan temps fréquence. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, mais on a de très très belles études de Jupiter ici. Donc, en fonction du temps et de la fréquence, les signaux varient, on a la polarisation, on peut descendre à des millisecondes, là, ici, le signal varie. Et ça, ça vient des aurores de Jupiter, de l'interaction de Jupiter avec ses lunes. Il y a plein de choses très intéressantes là-dedans. Un autre exemple, parmi beaucoup d'autres, avec le radiotélescope de Kharkov dans les années 60, on a découvert ces raies très fines et profondes, qui sont, vous voyez, à 25-26 MHz, et on s'est aperçu que c'était ce qu'on appelle les radio recombination lines. Ce sont des raies, en fait, des transitions atomiques, mais pour des nombres quantiques très, très, très élevés. Si on regardait la taille macroscopique, donc dans la vision classique de l'atome, ce seraient des atomes qui feraient 100 microns de diamètre, tellement ils sont dans un état excité, presque à l'ionisation. Et donc ça peut s'étudier avec ces radiotélescopes. Alors, à basse fréquence, malgré tout, on a plusieurs problèmes. On a trois problèmes principaux qui sont que, vous savez qu'en optique, l'atmosphère perturbe les observations qu'on fait, et il faut, parce que l'atmosphère bouge, et il faut mettre de l'optique adaptative qui va déformer le télescope pour compenser les mouvements de l'atmosphère, pour avoir la limite théorique de diffraction du télescope. En radio, c'est pareil. Vous voyez, ici, vous avez une observation pendant un jour où l'ionosphère était calme, et ici, pendant un jour où l'ionosphère était perturbée. Alors, l'ionosphère, c'est la couche ionisée, donc avec des électrons libres qui est à 200 km d'altitude, et il y a des bulles dedans, des variations avec l'activité solaire. Et quand l'ionosphère est ionisée, eh bien, vous voyez que le champ bouge de manière terrible, il se déforme, et si on fait des images intégrées sur très longtemps, on va avoir des horribles pâtés et on va avoir perdu toute la finesse des images. Ça, c'est un premier problème. Par ailleurs, le ciel en optique, il est noir, il fait essentiellement 3 Kelvin, hein, c'est le corps noir cosmologique, mais quand on va vers les fréquences de plus en plus basses, à cause des électrons qui se déplacent dans notre galaxie et qui produisent du rayonnement par effet synchrotron et par effet Bremsstrahlung, on va avoir en fait une brillance équivalente du ciel qui est très très grande. À 1 GHz, le ciel ne fait encore que 5 Kelvin, mais à 100 MHz, il fait 1000 degrés, l'équivalent de 1000 degrés isotrope. À 10 MHz, il fait 300 000 degrés. Voilà. Donc on a un ciel très brillant et ça va être beaucoup plus difficile de détecter des sources ponctuelles sur ce fond brillant. Et puis enfin, comme Françoise en a parlé tout à l'heure, on a tous les parasites radio imaginables, ce qu'on appelle les radio frequency interference, les émetteurs à ondes courtes, les émetteurs FM, les radars, les fours à micro-ondes qu'on ouvre de manière intempestive, et tout ce qu'on peut imaginer qui crée des parasites qui vont perturber les observations radio et qui sont pires à basse fréquence qu'à haute fréquence. Alors c'est ça qui a... ça et les progrès de l'informatique ont motivé en fait la deuxième révolution de la radioastronomie, qui est le passage au radiotélescope numérique. Et le premier exemple de cette révolution, c'est le radiotélescope LOFAR, qui couvre toute l'Europe. Alors vous voyez, vous avez des antennes de LOFAR, donc des radiotélescopes de LOFAR, qui sont dans tous les points jaunes ici. Il y en a un à Nancy, en Sologne, et puis il y en a jusqu'en Suède, maintenant jusqu'en Pologne, il y en a en Lettonie, c'est pas tracé ici. Et alors ce qui est très intéressant maintenant, c'est que chacun de ces télescopes est lui-même un réseau phasé d'antennes. Donc on va coupler la technique des réseaux phasés avec l'interférométrie. Donc LOFAR est un interféromètre de réseau phasé. Donc chacun des groupes d'antennes ici, qui est à chaque endroit, est un réseau. En fait, il y a deux réseaux d'antennes, parce que vous allez voir, on couvre une gamme de fréquences très très large, et donc on n'arrive pas à faire ça avec un seul type d'antenne. Donc on a deux types d'antennes pour couvrir deux moitiés de la bande passante. Donc on a deux types d'antennes que je vais vous détailler dans un instant. Et puis ces réseaux d'antennes sont l'équivalent d'un radiotélescope de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, ça dépend de la fréquence, et ensuite on fait un interféromètre de 2000 km de diamètre avec ces différents radiotélescopes. Voilà. Donc on va avoir un interféromètre de réseau phasé, on a à peu près 50, ça s'appelle des stations de LOFAR, à peu près 50 stations LOFAR à travers l'Europe. Alors à Nancy, par exemple, c'est une vue de la station de radioastronomie française à Nancy, ici se trouve la station LOFAR de Nancy, avec ses deux jeux d'antennes, et puis un conteneur qui contient toute l'électronique. Alors là, voilà dans une vue par hélicoptère, ici. Là, c'est le radiotélescope bien connu, en fait, le grand radiotélescope de Nancy qui travaille au gigahertz hein, et qui observe des pulsars, notamment. Ici, c'est la station LOFAR construite en 2010. Et cette station est formée donc de deux jeux d'antennes. Ici, on a un jeu d'antennes qui est formé de simples fils tendus par un mât et puis au-dessus d'une grille fer à béton. Alors quand on voit ça, on n'a pas l'impression de voir un instrument d'optique très performant. Et pourtant. Et puis à haute fréquence, on a d'horribles dalles de polystyrène recouvertes de plastique qui contiennent là aussi des antennes qui sont des dipôles croisés, donc deux lames de métal croisées. Alors en fait, fonctionnellement, voilà ce que c'est qu'une station LOFAR. C'est deux réseaux d'antennes qui couvrent à peu près un disque de 60 et de 50 mètres aux deux gammes de fréquences. Ça, c'est les antennes avec les fils fins. Ça, c'est les tuiles en polystyrène. La première partie des antennes, les basses fréquences, couvrent de 30 à 80 MHz. Alors, si vous vous rappelez de ma première diapositive, en fait, on ne peut pas observer plus bas qu'environ 10 MHz à partir de la surface de la Terre, parce que sinon, l'ionosphère réfléchit les ondes radio. Donc là, on observe à partir de 30, donc quasiment 10 MHz, et on va jusqu'à 80. Alors, à 80, on a deux raisons de s'arrêter à 80. La première, comme je vous disais, c'est qu'on voulait couvrir la gamme 30 à 300 à peu près avec LOFAR. Couvrir une gamme de fréquences d'un facteur 10 aussi grande avec un seul type d'antenne, techniquement, c'est très compliqué. Et puis par ailleurs, en plein milieu de la bande, entre 80 et 110 MHz, on ne peut pas observer puisqu'on a la bande FM. Donc on utilise les ondes radio pour transporter les émissions radiodiffusées, en fait. Et donc on est saturé d'émetteurs. Donc on a divisé la bande en deux. On a la partie qui est sous la bande FM, 30-80, la partie qui est au-dessus de la bande FM avec un autre type d'antenne. Ces antennes sont il y en a 96 de chaque, sont connectées par 192 câbles, hein, parce qu'on a deux polarisations par antenne, à un conteneur qui est bourré d'électronique, où on va numériser en fait le signal de chaque antenne, et à partir de là, tout va être fait numériquement. Donc la fabrication du faisceau va être faite numériquement, et ensuite l'envoi des signaux correspondants à ce faisceau jusqu'au nord des Pays-Bas, où on va combiner les signaux des 50 stations LOFAR pour faire notre interférométrie. Et donc, en fait, vous allez voir juste après, en fait, on va numériser les signaux ici, les découper en bandes de fréquence, former les faisceaux dans le ciel et envoyer tout ça par un lien, une fibre optique à 3 gigabits par seconde au nord des Pays-Bas où une grappe de calcul va faire la corrélation de tous ces signaux comme dans un interféromètre normal. Voilà. Alors, comment on fait donc avec, pour chaque station, donc je vous ai dit, chaque station est un réseau phasé numérique cette fois-ci. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a un réseau d'antennes, si on introduit des délais entre certaines des antennes et les autres, on va avoir une sensibilité maximum dans une direction choisie. Ici, avec un délai plus delta t, on va regarder dans la direction θ, avec un délai moins delta t dans la direction moins θ. Quand vous introduisez votre délai avec des câbles, comme on le faisait dans les anciens réseaux phasés que je vous ai montrés, et bien à un instant donné, vous choisissez entre cette direction ou celle-là, puisque vous connectez tel ou tel câble pour pointer. À partir du moment où vous avez numérisé vos signaux et où les délais sont juste des décalages de chiffres que vous appliquez sur vos données, rien ne vous empêche de dupliquer vos données et d'appliquer à la fois les décalages plus delta t et moins delta t, et donc d'avoir en fait autant de faisceaux que vous le désirez dans le ciel simultanément. Vous n'êtes limité que par la puissance de calcul de votre instrument pour faire ça. Alors grâce à ça, on a donc des antennes qui ne bougent pas au sol, chaque dipôle voit quasiment tout le ciel, on va numériser ces signaux et tout va être fait en numérique, et ça donne des avantages considérables. D'abord, on peut observer, comme je vous l'ai dit, avec des multiples faisceaux, en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Ensuite, on peut reconfigurer les observations de manière très rapide, c'est quasiment la vitesse d'une commande informatique. Donc si vous avez prévu vos commandes, à l'échelle très inférieure à la milliseconde, vous pouvez passer d'un pointage à un autre et changer la conformation de votre télescope. Et donc, il répond très rapidement. Et donc, en fait, le concept nouveau introduit par LOFAR, c'est celui-ci. Donc ici, vous avez une station LOFAR. Alors là, au nord des Pays-Bas, pour des raisons particulières, on a divisé les antennes haute fréquence en deux groupes, mais ce n'est pas important. Vous avez une station LOFAR au nord des Pays-Bas, puis vous en avez six côte à côte dans un disque de 300 mètres de diamètre qui est là aussi au nord des Pays-Bas. Et puis tout autour, dans 3 km de diamètre, vous avez un cœur formé de 24 stations. Puis au total, vous en avez 38 dans tous les Pays-Bas, et au final, une cinquantaine à travers toute l'Europe, et ça, c'est votre réseau LOFAR complet. Alors voilà, le principe, c'est que chaque antenne voit quasiment tout le ciel, et que donc rien ne bouge. On n'a pas de mouvement mécanique dans un radiotélescope numérique moderne, puisque tout est fait par combinaison électronique et numérique des faisceaux. Donc au niveau d'une station, on va combiner les signaux numériquement, comme je vous l'ai expliqué, pour former différents faisceaux dans le ciel. Et au niveau de l'ensemble du télescope, on va faire des interférences, donc calculer des corrélations entre tous ces faisceaux et faire des images avec l'instrument complet qui est un interféromètre. Donc en fait, ça c'est Chiara Ferrari, une collègue qui m'a passé cette image, que j'aime bien, cette animation. C'est un espèce de radiotélescope logiciel. On a des antennes et puis un gros réseau informatique et un gros calculateur. Très flexible, nombreux modes d'observation. Mais alors, on a quand même quelques difficultés. Par exemple, comme les antennes sont fixes et on ne les bouge, quand vous bougez une parabole, l'avantage, c'est que la parabole a une certaine figure de diffraction, ce qu'on appelle une PSF, une point spread function, et quand vous inclinez votre parabole, vous déplacez cette figure de diffraction avec la parabole. Donc en fait, quelle que soit la direction où vous pointez, votre antenne a la même réponse. Et après, vous faites de l'interférométrie, je dirais, pure là-dedans. C'est le cas d'ALMA, de l'IRAM, du VLA, etc. Là, vous avez des antennes qui ne bougent pas au sol, donc ces antennes, elles ont elles-mêmes une réponse qui varie en fonction de l'espace. Donc quand vous allez faire un faisceau phasé par ici, ou par là, et que vous allez faire des interférences, la réponse de l'antenne va varier en fonction de la direction. Donc ça ajoute une complexité, en fait, dans les signaux mesurés qu'il va falloir prendre en compte dans leur analyse. Alors, pour ça, il y a eu beaucoup de maths derrière. Au début, les équations de l'interférométrie, je dirais de base, ont été établies dans les années 60 par Maurice et des collègues, et donc ça reliait les mesures dont je vous parlais, les corrélations pour chaque ligne de base, à la distribution alors de ce qu'on appelle les paramètres de Stokes, c'est l'intensité et trois paramètres qui décrivent la polarisation des ondes à travers le ciel que vous voyez. Et donc il y avait des équations très compliquées qui reliaient pour chaque télescope vos mesures avec la brillance du ciel. Et puis en 96, il y a eu vraiment une rupture épistémologique en quelque sorte. Il y a un nouveau cadre mathématique qui a été proposé pour analyser l'interférométrie, ça s'appelle la Radio Interferometer Measurement Equation, ou RIME en résumé, hein, donc l'équation de la mesure radio-interférométrique, qui a été proposée dans trois articles de Amateur, Bregman et Salt, trois scientifiques néerlandais et australiens. Et c'est un formalisme matriciel. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais c'est juste pour vous dire, la logique de ça, c'est que votre intensité et polarisation du ciel est dans une petite matrice, un petit tableau à quatre éléments, 2 × 2. Et puis ce petit tableau, il va être encadré par plein de petits tableaux à quatre éléments qui vont représenter toutes les contributions de ce qui arrive au signal depuis le ciel jusqu'à vous. Donc la propagation va être 2 matrices de 2 côtés, et puis ensuite la réponse du télescope, l'angle de visée, etc. Tout peut se mettre dans une succession de matrices qui vont être affectées à une antenne et l'autre antenne de la ligne de base. Et vous allez obtenir à l'arrivée la mesure de corrélation pour cette ligne de base. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette équation, qui relie donc des milliers de mesures à la carte du ciel, peut être inversée avec des mathématiques spécialement faites pour manipuler les matrices. Et en plus de ça, un plus jeune collègue de l'Observatoire de Paris, Cyril Tasse, dans les années 2014-2018, a inventé en fait une nouvelle manière de manipuler ces matrices, une manière à la fois... Donc ça porte sur des méthodes qu'on appelle en mathématiques de la diagonalisation. Il a obtenu une méthode qui permet de résoudre ces équations à la fois beaucoup plus vite et plus précisément. Alors en fait, ça consiste à découper le ciel qu'on veut observer en plein de facettes, de résoudre toutes les équations dans les facettes en même temps. Et pour vous donner le résultat, donc ça permet de prendre en compte la polarisation, les effets instrumentaux. Et en fait, ce qu'on fait réellement avec ça, on fait de l'optique adaptative, mais de manière purement numérique. Hein, en optique, vous savez qu'on a nos miroirs déformables, on a des analyseurs de front d'onde, et puis ensuite des petits vérins, des centaines ou des milliers de vérins sous le miroir déformable, qui vont compenser avec la forme du miroir la turbulence de l'atmosphère. Ici, on enregistre comme des brutes le signal, et puis après, on fait tourner des algorithmes compliqués sur les signaux, et on fait de l'optique adaptative a posteriori. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs essais, erreurs, et améliorer nos algorithmes. Et alors, par exemple, en découpant notre ciel comme ça, donc ça, c'est le nom de l'algorithme qui a été développé par notre collègue Cyril Tasse. Voilà, par exemple, quelques années après le début de l'OFAR, les meilleures images qu'on pouvait faire étaient des images qui ressemblaient à ça. Donc on a des sources qui sont... Alors on voit très bien plein de sources dans le ciel, hein, c'est très très puissant, mais on voit que les sources puissantes sont affectées de PSF, de réponses instrumentales très compliquées, très perturbées. Et avec les mêmes données et des algorithmes améliorés, on obtient ça comme image. Donc ce sont les mêmes données, et voilà, une image. Et donc vous voyez qu'on commence à avoir des images extrêmement précises, et regardez toutes ces petites sources qui sont en fait des sources extra-galactiques, on voit des jets émis par toutes ces sources, donc on a une morphologie absolument incroyable qui commence à se révéler avec ces sources. Alors les méthodes d'inversion, elles ont été développées pour l'OFAR, mais en fait elles s'appliquent à tous les types de radiotélescopes interférométriques. Voilà les mêmes méthodes appliquées sur... ici le VLA, je crois, ici ATCA, non, ici ça doit être Westerbork, pardon, et ici le VLA, ou ici MERCAT. Vous voyez, vous avez des images avant et après application de ces nouveaux algorithmes, donc vous voyez le type de qualité d'image qu'on obtient. Alors MERCAT, c'est absolument fabuleux, hein. Je vais y arriver. Avec nos signaux numériques, eh bien, les problèmes dont Françoise parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on a beaucoup de parasites, en particulier quand on observe aux basses fréquences, là aussi, on va se servir des mathématiques, donc essentiellement des statistiques, comme d'une tondeuse à gazon, en fait, à retirer les parasites dans nos données, et on va partir d'images extrêmement polluées, dans lesquelles on va pouvoir détecter automatiquement tout ce qui est en jaune ici, et on va pouvoir retrancher tout ce qui est en jaune pour obtenir, finalement, des données qui sont débarrassées des parasites radio qui les affectent. Et par exemple, voilà quelques images de l'OFAR faites, alors il y a déjà pas mal d'années, hein, en imagerie. Vous avez ici ce qu'on appelle un microquasar, une source stellaire dans notre galaxie, qui émet des jets en tournant sur elle-même, donc ça donne ces structures en hélicoïdale des deux côtés. Ici, c'est la source qui est là, SS-433. Vous avez ici, par exemple, le reste de supernova Cassiope A, qui donne une coquille de gaz dans laquelle on a pu mesurer des raies de recombinaison atomique. Vous avez ici, avec un jeune collègue, des images qu'on a fait des ceintures de radiation de Jupiter aux plus basses fréquences jamais obtenues, en fait. Et surtout... il y a eu un programme extrêmement fructueux qui a été fait avec l'OFAR, c'est le survey complet du ciel de l'hémisphère nord à 2 mètres de longueur d'onde, donc à 150 MHz. Donc vous avez ici les surveys qui avaient été faits avant, et puis ici le survey de l'OFAR en termes de fréquence et de sensibilité. Vous voyez que la sensibilité est bien meilleure que les surveys précédents, au moins un facteur 10. Et en plus, comme l'OFAR contient à la fois des lignes de base courtes et longues, on arrive à faire des images qui contiennent à la fois l'information sur les sources ponctuelles et sur les sources étendues. Alors voilà par exemple le VLA au Nouveau-Mexique, c'est un instrument où il y a 27 paraboles que l'on peut déplacer sur des rails. Et donc, on peut avoir des configurations compactes ou des configurations étendues. Quand on a une configuration étendue, on obtient par exemple ici une image comme ça du ciel avec des sources ponctuelles. Donc ça, c'est à 1,4 GHz, hein, la fréquence de l'hydrogène. On a essentiellement, on est sensible aux petites structures dans le ciel, donc aux sources ponctuelles. Et là, par exemple, on détecte dans ce survey du VLA 90 sources par degré carré. Ensuite, on va rapprocher les antennes du VLA en configuration compacte et on va détecter cette fois-ci les émissions étendues, les nuages de gaz étendus. On a à peu près 50 sources par degré carré. Eh bien, sur le même champ avec l'OFAR, on obtient ça. Vous voyez qu'on a à la fois les émissions étendues et les sources ponctuelles avec une sensibilité et une... bien qu'on soit à une fréquence 10 fois plus faible. Donc, en principe, en termes de résolution, on devrait être 10 fois plus mauvais. Malgré tout, notre image est bien plus résolue. On a à la fois les structures étendues et les structures ponctuelles, et on détecte jusqu'à 750 sources par degré carré. Et alors, quand ces images sont des images avec des dizaines de milliers de pixels, donc on peut aller faire des zooms sur les sources en question, et les résolutions sont telles qu'on peut commencer à faire des études multilongueur d'onde en comparant ce qu'on voit avec l'optique, les rayons X, etc., et faire vraiment de la physique très intéressante comparative. Alors, je ne résiste pas à... si Cyril Tass, mon collègue, vous avez fait cette présentation, il aurait en fait exploré le ciel en temps réel avec une carte du ciel où on irait voir les galaxies vues par l'OFAR. Les formes sont incroyables. Voilà ici deux exemples. Voilà deux galaxies avec celle-là, c'est celle de tout à l'heure. Voilà une autre galaxie avec des jets absolument incroyables qui témoignent à la fois du mouvement du matériau dans le milieu intergalactique et de la galaxie elle-même. Et puis, il y a des formes absolument incroyables en fait, qui ont été détectées, donc des morphologies qui nous révèlent un univers dynamique à très grande échelle qui est extrêmement intéressant. Mais ce n'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas m'étendre. Alors, comme l'OFAR est un télescope numérique, on n'est pas limité à faire de l'imagerie, on peut faire autre chose. Par exemple, on peut utiliser une partie des stations de l'OFAR, celles qui sont proches du cœur, pour faire un réseau phasé global. Donc, c'est comme si, cette fois-ci, on va sommer les signaux de toutes les antennes et on va faire simplement des faisceaux. On ne va pas essayer de faire des images, mais on va faire des faisceaux dans le ciel et ces faisceaux vont être à la fois très sensibles et on va pouvoir aller observer très rapidement et avec une très grande résolution spectrale ce qui est dedans. Oui, j'ai oublié de vous dire, une des limitations des images, c'est que c'est difficile de descendre au-dessous, d'aller plus vite qu'un rythme d'environ une image par seconde. Donc, si on observe des pulsars, par exemple, ou des fast radio bursts, ce n'est pas forcément optimal parce que ça peut varier à la milliseconde. Et donc pour ça, on va utiliser ce mode-là, où on va en faire des faisceaux phasés, donc en sommant les signaux du cœur de l'OFAR, pour faire des faisceaux très fins, très sensibles, avec lesquels, par exemple, on va étudier des pulsars. Alors, ce qui est limitant, c'est que comme on a une ionosphère qui n'est pas la même au-dessus de tout l'instrument, eh bien, comme on fait la somme instantanée du signal de toutes les antennes, on ne peut pas faire ça au-delà de quelques kilomètres. Donc, on ne peut pas utiliser les 50 stations de l'OFAR pour faire des faisceaux phasés. On prend uniquement celles du cœur, qui sont dans les 24 stations qui sont dans 3 km de diamètre au nord des Pays-Bas. Et on va utiliser donc la moitié des stations de l'OFAR pour faire des faisceaux phasés. Mais dans ces faisceaux phasés, on peut étudier, par exemple, les pulsars de manière extrêmement fine. Et avec l'OFAR, on a fait une cartographie complète du ciel pour y chercher des pulsars. Alors, je ne sais plus quel est le nombre exact, mais il est très au-delà d'une centaine de pulsars découverts avec la forme de leur pulse. On a étudié ces pulsars, certains se sont révélés être bimodaux, c'est-à-dire ils sont actifs en X et ils dorment en radio, et puis un peu plus tard, ils vont être actifs en radio et ils dorment en X, donc ça c'est extrêmement intéressant. On a découvert le pulsar le plus lent, celui qui tourne en 23 secondes et demie sur lui-même, hein, c'est vraiment très très lent, les pulsars d'habitude tournent en une seconde, voire quelques millisecondes. Bon, il faut quand même penser que ce sont des étoiles de 10 km de diamètre, hein. C'est pas rien de tourner en une seconde. On a des binaires, en fait. Vous voyez qu'on a un pulsar ici qui disparaît, qui réapparaît ici, et il subit des éclipses. C'est en fait ce qu'on appelle, alors il y a toute une terminologie, des étoiles à dos rouge, des naines à dos rouge ou alors des veuves noires sont en fait une étoile naine et un pulsar. Le pulsar va irradier très fortement son compagnon, et puis il va soit la chauffer au rouge, si je puis dire, soit carrément enlever en fait la plus grande partie de la matière de son compagnon. Donc ça donne des objets à éclipse comme ça. Et puis le mode en réseau phasé est aussi très utile pour étudier le Soleil. Voilà, alors ici une image d'émission. Ça, c'est une image en ultraviolet hein, derrière, et puis voilà une image en radio. Mais vous pouvez faire des images dynamiques. Ici, vous avez à la fois des images et à la fois le temps et la fréquence, des sursauts solaires qui correspondent à des électrons qui vont se propager loin du Soleil en des quelques secondes ou quelques fractions de secondes. Et vous pouvez à la fois, au fil du temps qui passe, eh bien observer l'énergie, la distribution temps-fréquence et la position de ces sursauts. Donc une physique extrêmement riche qui peut être faite en mode faisceau phasé. Vous avez un troisième mode très intéressant, qui est cette fois-ci, on va aller à la résolution temporelle maximum. On ne va plus descendre à la milliseconde, on va aller carrément à la nanoseconde, donc à l'échelle de temps où on numérise le signal sur chaque station. On a des circuits électroniques qui permettent de stocker quelques secondes de signal et de les rejouer après pour étudier des phénomènes très rapides. Et avec ça, par exemple, on a pu étudier l'arrivée de rayons, de gerbes d'électrons dus à des rayons cosmiques qui rentrent dans l'atmosphère terrestre. Et vous voyez ici, vous avez les différentes stations du cœur de l'OFAR qui sont illuminées au cours du temps par les signaux de la gerbe de rayons cosmiques. Ce qui est intéressant, c'est l'échelle de temps. Tout le film qui vient de se dérouler se passe en 300 nanosecondes, donc moins qu'une microseconde pour le film que vous venez de voir. Et comme on a l'information justement sur le déroulé, on peut en déduire la direction d'arrivée, l'énergie, la profondeur de pénétration, la composition de ces rayons cosmiques, donc c'est super intéressant. Ces données à la nanoseconde ont été aussi utilisées pour cartographier des éclairs dans l'atmosphère terrestre, donc près de l'OFAR, autour de l'OFAR. On a réussi en fait à cartographier la manière dont les canaux ionisés en fait, des éclairs se développent en quelques fractions de secondes, quelques millisecondes au total. Et donc ça, c'est très très intéressant pour étudier la dynamique des éclairs d'orage terrestre. Voilà. Alors, bien sûr, l'OFAR était le premier de ces nouveaux radiotélescopes, mais bien sûr pas le seul. François vous en a déjà mentionné un certain nombre. Et par exemple, vous avez en Afrique du Sud, MERCAT, un ensemble de 64 paraboles de 7 et 12 mètres, je crois, qui a réalisé, alors en hydrogène, des images absolument incroyables du centre galactique. On est dans l'hémisphère sud, donc on a ici le centre galactique avec le plan galactique des filaments qui semblent en partir, une bulle qui a été observée des deux côtés en fait, de gaz partant dans les deux directions. Et puis plus récemment, en fait, des amas de galaxies en fait, avec des morphologies tout à fait formidables observées par MERCAT. Et puis à beaucoup plus basse fréquence, par exemple, en Australie, l'instrument MWA, le Murchison Wide-Field Array, a réalisé un très beau survey du ciel entre 70 et 230 MHz, où on voit bien sûr la Voie lactée, et puis les différentes couleurs correspondent à différentes fréquences dans cette bande, et on peut aller faire des études multifréquences très intéressantes. Et bien sûr, vous avez ASCAP, qu'a mentionné Françoise, en Australie, des paraboles, vous avez CHIME au Canada, vous avez un grand nombre de télescopes qui ont comme point commun que la partie numérique devient absolument prépondérante l'acquisition et le traitement des données. Alors là, ces deux télescopes fonctionnent pour MERCAT à ces fréquences-là, autour de la dizaine, la trentaine de centimètres, et puis pour le MWA, autour du mètre, de quelques mètres de longueur d'onde. Alors vous avez FAST, bien sûr, le radiotélescope chinois, qui est un espèce d'Arecibo géant. Bon, Arecibo, comme vous le savez, s'est écroulé. FAST fait 500 mètres de diamètre, mais à un instant donné, on peut utiliser qu'une fraction de cette surface, puisqu'on va déplacer le foyer et puis on va utiliser une portion de la surface que l'on va refaçonner en parabole parce que les panneaux sont mobiles. Et donc, il peut refaçonner localement la forme du télescope. Alors, c'est un single dish, donc ça pourrait sembler un petit peu anachronique, finalement, à notre époque d'instruments numériques modernes. Néanmoins, comme Françoise vous le mentionnait, il y a beaucoup de récepteurs au foyer et il y a quand même une efficacité d'observation, notamment pour les pulsars, les fast radio bursts, qui est très grande. Ce n'est pas un instrument merveilleux pour faire de l'imagerie, en revanche. Alors, cette révolution numérique a un coût, et Françoise en parlait un petit peu, et je reviens un peu dessus. Le coût, c'est le débit des données, leur stockage et le traitement de ces données. Maintenant, vous avez... Alors, bien sûr, pour MERCAT, par exemple, vous avez encore des paraboles, donc vous avez encore une partie hardware qui est importante. Il faut faire des belles paraboles très précises, les piloter mécaniquement, etc. Mais pour l'OFAR, on a vraiment des antennes rustiques, des dipôles qui sont de simples bouts de métal, avec un préampli qui est formé d'un circuit miniaturisé en tête d'antenne, et puis tout de suite, on va aller numériser le signal. Et donc, tout va se faire en numérique, et cette fois-ci, toute la puissance du télescope va être dans le numérique. Alors, les signaux sont captés, en fait, numérisés et ensuite traités par des grappes de calcul. Par exemple, ça tient dans deux armoires, en fait. Vous avez 13 énormes PC qui contiennent des CPU et des GPU, des processeurs graphiques, liés par des liens à 100 gigabits par seconde, qui sont, en fait, le corrélateur, c'est-à-dire l'imageur de l'OFAR. Ensuite, une fois que vous avez fait les produits bruts, il faut les post-traiter. Pour les post-traiter, vous avez des grappes d'une centaine de PC en fait, qui sont mises à la disposition des utilisateurs. Ça dépend où on est, donc ça, c'est un exemple. Et puis, il faut stocker ces données. Et pour stocker ces données, vous avez des stockages sur disque dur et sur bande, et il va falloir stocker des dizaines, voire des centaines de pétaoctets. Voilà. Actuellement, pour l'OFAR, on en était en 2016 à déjà 25 pétaoctets, on en est à peu près au double actuellement. Alors, il faut savoir que, comme l'a dit François tout à l'heure, les données brutes qui sortent de l'instrument sont beaucoup plus importantes que ça. Ça peut être 10 à 100 fois plus élevé que ça. Et donc, il faut réduire très très vite ces données par des pré-traitements qui vont, en quelque sorte, jeter l'eau du bain, mais sans jeter le bébé avec. Hein, il faut essayer de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc réduire les données en gardant l'information intéressante. Et donc ça, c'est vraiment le défi du pré-traitement. Et alors ensuite, ces données, alors on n'a pas 50 pétaoctets de disque dur qui tournent en permanence. En général, on va stocker les données sur des bandes magnétiques à très haute densité, dans des robots. Et quand vous demandez des données que vous voulez retraiter, eh bien, vous faites une requête informatique, et là, le robot va aller chercher les données sur bande, les copier sur disque dur. Sous 24 heures, c'est à votre disposition. Et après, vous mettez une semaine à les copier par le réseau informatique avant de pouvoir les traiter localement sur place. Ou, de plus en plus, maintenant, on va aller vers des systèmes, systèmes d'information, en fait, des archives de données, où on va faire rentrer les données dedans, mais on ne va plus les faire ressortir. On va les faire ressortir localement. C'est-à-dire, en fait, on va avoir des données et puis des machines à côté de ces données dans lesquelles on peut créer des ordinateurs virtuels qui vont directement travailler sur des données sans qu'on ait à les redéplacer. Parce que le déplacement de pétaoctets de données devient un casse-tête absolument insoluble. Alors, vers les très basses fréquences, comme, bon, j'ai pas beaucoup de temps et puis que c'est mon bébé, je vais pas faire du favoritisme, donc je vais pas insister beaucoup, mais on est en train de finir de développer à Nancy un complément très important à l'OFAR qui s'appelle Nénuphar, une nouvelle extension qui upgrade l'OFAR, qui a un ensemble de 2000 antennes, quasiment autant d'antennes que l'OFAR n'en contient dans tous les Pays-Bas, mais situées dans un seul point, à Nancy en Sologne, et qui vont vraiment se focaliser sur les très très basses fréquences. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir autour de la station l'OFAR de Nancy un ensemble d'antennes très compactes qui va regarder les basses fréquences de l'OFAR et encore en dessous, on va descendre jusqu'à 10 MHz, donc regarder la bande de 10 à 85 MHz. Vous avez une petite vidéo qui tourne. Et puis en chiffres, voilà, on a là aussi plusieurs instruments en un, parce que tout numérique, près de 2000 antennes, formées de groupées, 400 mètres de diamètre, de l'ordre de 10 pétas de données par an traitées, hein, de données traitées par an. Les données brutes peuvent être de 10 pétas par jour, de 10 à 85 MHz, et une aire effective, vous voyez, très supérieure à un parks et très équivalente à un Arecibo, en fait. Alors avec ça, il y a des nouveaux sujets. Comme on est à très basse fréquence, on veut aborder des nouveaux sujets scientifiques. Un nouveau sujet, par exemple, c'est la recherche de l'aube cosmique. L'aube cosmique, c'est avant la formation, c'est vraiment au moment de la première formation des étoiles et des galaxies, des toutes premières. Et ça, il y a des prédictions théoriques. Alors, il y a deux types de prédictions théoriques. Il y a des prédictions qui disent, oui, quand on va vers le passé, évidemment, on va vers des fréquences de plus en plus basses. C'est toujours de l'hydrogène qu'on observe, mais décalé de plus en plus vers les basses fréquences, vers le rouge. Et on devrait voir un spectre qui a des creux et des bosses, en fait, et notamment un grand creux vers 70 MHz. Ça, c'est la théorie qui nous dit ça. Et puis, en 2018, il y a un petit instrument en Australie qui a détecté un signal qui ressemble à ce creux. Alors, en fait, il ressemble, mais pas complètement. Il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus large et plus plat. Et donc, les gens se sont énormément excités dessus, mais le résultat des courses, c'est que c'est tellement difficile de retirer toutes les sources d'avant-plan qu'en fait, on ne peut pas conclure. C'est toujours partagé. Et donc, la deuxième manière de conclure, ce n'est pas de regarder le signal global, mais de faire de l'imagerie du ciel. Et avec cette imagerie, dans cette même gamme de fréquences, eh bien, en fonction de la fréquence, on devrait voir des images. Voilà, ici, c'est la fréquence qui défile. On va de plus en plus vers les basses fréquences. Et vous voyez que les images vont se mettre à varier. Et il y a une gamme de fréquences vers 70 MHz où on devrait avoir des structures très particulières. En faisant des images et en étudiant ces structures, eh bien, on devrait arriver, c'est exactement dans la gamme de Nénuphar, à savoir si oui ou non on a ce signal de l'aube cosmique. Et voilà les images qu'on est en train de faire avec Nénuphar. Et toutes les sources ponctuelles qu'on détecte, on les retire, et c'est entre ces sources qu'on va aller chercher le signal diffus qui contient peut-être la signature de l'aube cosmique. Alors, on est en train d'essayer de faire plein de choses avec Nénuphar. Par exemple, on connaît bien les émissions radio du Soleil et de Jupiter. On essaye de détecter les émissions radio basse fréquence des étoiles et puis celles des exoplanètes. On commence avec l'OFAR à y arriver, on espère le faire avec Nénuphar. On détecte énormément de pulsars avec l'OFAR, avec Nénuphar déjà. Voilà une galerie de portraits ici, avec une cartographie dans le ciel, la région autour de nous où on les détecte. Et alors, on détecte plein d'impulsions géantes du crabe. On détecte des pulsars millisecondes qui n'ont jamais été détectés à aussi basse fréquence. Et puis, on détecte la signature des pulses à plein de fréquences différentes, entre 12 et ici, presque 80 MHz, 82 MHz, ce qui donne des informations physiques sur la manière dont le faisceau, en fait, émis par le pulsar, sur sa géométrie. On fait des observations de la couronne solaire, très intéressante avec Nénuphar. Et puis, bon, alors, au plan technique, il y a une réalisation dont on est assez content. On a développé en fait une interface de contrôle virtuelle, c'est-à-dire en fait une interface web, qui permet, assis devant votre ordinateur en n'importe quel point du globe, avec une connexion Internet, de complètement contrôler, surveiller l'instrument, programmer vos observations, récupérer les données et travailler dessus. Et donc, c'est ce qu'on appelle la salle de contrôle virtuelle, et c'est, à ma connaissance, la plus performante à ce jour. Et pour finir, il faut mentionner ce que Françoise disait à la fin de son exposé. Dans les années qui viennent, on va construire le plus grand radiotélescope jamais construit au monde, qui est SKA, le Square Kilometer Array, qui a en fait deux instruments en un, l'un à basse fréquence, qui formé de centaines de milliers d'antennes en Australie, dans le désert australien, l'autre à moyenne fréquence qui sera formé de centaines de paraboles en Afrique du Sud et qui vont couvrir à eux deux des très très basses fréquences de 50 MHz, ici en vert, jusqu'à 15 GHz ou plus. Et donc avoir une gamme de sujets à étudier astrophysique extrêmement vaste, avec une très grande sensibilité et une très bonne résolution, comme Françoise le disait, des centaines de kilomètres de longueur de base. Alors là où le bât blesse, mais bon, on y travaille, c'est le débit de données. Le débit de données, en fait, vous avez des chiffres alors que vous pourrez lire à tête reposée. Vous voyez que le débit de données pour SKA en parabole ou SKA basse fréquence se chiffre, le débit brut, en exabytes ou en zettabytes. C'est-à-dire ce sont des nombres qui sont colossaux, qui sont comparables au trafic Internet mondial aujourd'hui, qui va être produit par l'instrument. Par exemple, on estime qu'on produira à peu près 5 zettaoctets par an. Un zettaoctet, c'est 1 million de pétaoctets. Bon, ça vous donne un peu l'échelle. Alors, il est évident qu'à ce stade-là, le stockage des données brutes est impossible. Mais il est impossible même pendant 10 secondes. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie les données directement du télescope vers la poubelle. Ce qui est quand même... Ce n'était pas la peine de dépenser 1 milliard d'euros pour ça. Mais, en fait, c'est là où on met de l'intelligence, puisque les algorithmes qu'on développe doivent extraire l'information utile qui va être 1000 fois plus petite en volume directement en temps réel. Et c'est là où les algorithmes tels que ceux, par exemple, réalisés par Cyril Tass ou d'autres qui sont en développement actuellement et qui sont en train d'être testés. Donc il y a toute une écologie en fait, de SKA avec des défis instrumentaux où on met les astronomes en compétition et au défi de détecter dans des données simulées des émissions très faibles. Alors voilà, SKA est une organisation maintenant internationale. La France y est entrée en 2021, on est très contents. Il y a une grande, vaste gamme de sujets scientifiques qui vont être étudiés avec SKA, donc qui couvre vraiment tous les champs de l'astrophysique. Et puis alors, ces quatre dernières diapos, mais qui vont prendre une seconde chacune, vous donnent un petit peu en image l'évolution de la radioastronomie en 2005, 2010, 2015 et après 2020. Et vous voyez que ça se peuple de manière extrêmement dense avec des instruments de plus en plus puissants et malgré tout pas très chers, hein, puisque si on cumulait tout ça, on n'aurait pas un sous-marin nucléaire. Donc c'est pas énorme. Et alors, à tel point, ça c'est une vieille figure, mais quand même à tel point que là, vous avez la résolution angulaire et la fréquence. On a des instruments qui vont de plus en plus bas en résolution angulaire et de plus en plus bas en fréquence. Et ici, la zone rouge, c'est la zone qui restera de tout temps inobservable parce que c'est la turbulence du milieu interstellaire qui empêche d'aller à des résolutions inférieures. Et vous voyez que les instruments actuels commencent à presque aller taper en fait, vers les basses fréquences, vers cette limite. Donc évidemment, on peut monter à plus haute fréquence. Évidemment, on peut aller chercher des signaux extrêmement courts, comme Françoise les décrivait, à la milliseconde ou plus bas. Donc on a un champ d'étude qui est extrêmement vaste à explorer. Mais on a aussi des projets pour mettre des interféromètres radio dans l'espace ou sur la face cachée de la Lune. Et ça, ça ouvrira aussi l'accès vers les très très basses fréquences dans le futur avec des technologies numériques. Je vous remercie. Vous pourrez aller chercher plein de compléments sur ces sites.